France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Nicolas Lefleck. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans votre livre, c'est la façon dont il offre une nouvelle grille de lecture des romans de Manchette, et notamment la façon dont vous avez travaillé sur les clichés qui collent encore à la peau de cet écrivain, les images toutes faites sur son écriture.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Contre qui, contre quoi, tout contre quoi écrit Jean-Patrick Manchette. Né en 1942 à Marseille et mort en 1995, il y a donc pile 30 ans, il est l'auteur d'une œuvre importante, lue et citée par de très nombreux et très divers écrivains, écrivaines. Le polar est mort, vive le polar, le jeu avec les codes du genre et la pensée critique qui s'y déploie en fait une œuvre tout à fait à part. Nicolas Le Flaec a transformé l'éblouissement de sa découverte de ses livres en énergie de recherche pour lui consacrer d'abord une thèse, puis un ouvrage. Il est notre invité en compagnie de l'auteur Hervé Lecor. Vers 15h50, comme chaque mardi, on retrouve la journaliste Nicole Vulser, qui éclaire pour nous les enjeux économiques du monde des livres. Aujourd'hui, elle évoque tous ces livres qui finissent au pilon. Et en fin d'émission, on cherche de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Et JP Manchette choisissait la musique avec soin, comme le reste, j'ai bien compris. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Nicolas Le Flaec.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans le Book Club. Votre livre s'appelle Jean-Patrick Manchette, écrire contre, et il a paru aux éditions Gallimard. Et bonjour Hervé Lecor.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis les studios de Ici Bordeaux, dont j'ai noté le nom de la technicienne Sandrine Ortounot. Merci beaucoup à elle et à toutes les équipes qui vous accueillent là-bas pour vous permettre d'être un petit peu ici avec nous. Vous êtes évidemment auteur, un grand auteur qu'on connaît et qui est un grand lecteur aussi, admirateur de l'œuvre de Jean-Patrick Manchette. Alors dans un premier temps, on va essayer comme ça de placer une sorte de décor de début d'émission, à la fois un décor un peu général sur quelques éléments biographiques de Jean-Patrick Manchette qui nous permettraient d'être d'autant plus alerte et attentif à ce qu'on va déployer ensuite sur ce qu'il écrivait, mais aussi tirer quelques premières lignes de ce titre « Écrire contre » que vous avez choisi et que vous filez d'une certaine manière tout au long de votre livre, Nicolas Le Flaec. Alors j'ai dit 42 à Marseille, est-ce que c'est important par exemple? Est-ce que ça nous intéresse qu'il soit né donc en plein milieu de la guerre et à Marseille?
Oui, alors qu'il soit né en plein milieu de la guerre, c'est effectivement important. Dans un entretien, il dit « Je nais un hiver de guerre ». Et dans son œuvre d'ailleurs, on retrouve comme ça des flashs qui nous ramènent à cette guerre-là. Ce qui compte aussi, c'est de voir qu'il a grandi après la Seconde Guerre mondiale. Dans une France, par exemple, dans laquelle le cinéma américain était important. Il est nourri de cinéma américain, ça a beaucoup compté dans sa formation d'adolescent. Donc oui, ce contexte-là compte.
Et Marseille ?
Et Marseille, ben c'est plutôt le fruit de déplacements liés à la guerre, à ses parents qui ont été contraints de s'éloigner de la région parisienne, mais il y revient assez rapidement en région parisienne.
Vous évoquez tout de suite l'importance du cinéma et la présence du cinéma, notamment américain, dans l'après-guerre en France. En effet, on peut dire que c'est presque ses premières amours, et vous écrivez qu'il aurait presque écrit des romans policiers pour que le cinéma s'y intéresse, comme si c'était son désir, le premier désir, et que quoi, la littérature serait un désir en deçà.
Alors,
pour Jean-Patrick Manchette,
il y avait un plan au début, c'est que Manchette effectivement se destinait à écrire pour le cinéma. Il a eu besoin d'écrire pour vivre. Il devait vivre avec femme et enfant, et donc il a dû vivre de sa plume parce que ses parents lui ont coupé les vivres. Donc il a multiplié, tout en essayant d'écrire pour le cinéma, toute une série de travaux alimentaires sur lesquels je m'attarde aussi parce qu'ils sont importants. Manchette se considère en fait comme un artisan du texte. Et il explique que c'est durant ces années difficiles de vache maigre qu'il a réussi à maîtriser son outil, en fait, à comprendre comment construire des textes assez rapidement. Donc il y a une part de grande souffrance.
Mais parce qu'il le fait beaucoup ?
Oui, parce qu'il travaille énormément, parce que pour donner l'idée de ce que ça représente, il écrit des romans pour la jeunesse, qu'il co-signe, Tête brûlée contre zombies. Il écrit aussi des novélisations sous pseudonyme, le pseudonyme Pierre Duchesne. Et il écrit un roman pornographique sous le pseudonyme Zeus de Castro. Et là, il a l'impression vraiment de toucher le fond. Et en fait, bon, il va changer un petit peu d'approche. Il a un plan qui est plutôt juste, parce que là, il y a beaucoup de romans de la série noire qui sont adaptés au cinéma. Donc, son idée, c'est de se dire, voilà, je vais écrire, en fait, des polars, ils seront adaptés au cinéma, et comme ça, j'entrerai comme par effraction, en fait, dans le milieu du cinéma. Et ce qu'il va découvrir, en fait, c'est que il aime bien écrire des romans.
Mais est-ce qu'il ne soupçonnait pas ? C'est-à-dire que ça ne s'origine nulle part, le
Alors,
plaisir si, qu'il aurait
si,
à
si,
écrire.
Il y a des tentatives, en fait, il y a des tentatives avant qui existent. Le tropisme initial, c'était quand même plutôt vers le cinéma. Et après, les choses s'inversent, en fait. C'est-à-dire que... au début, il veut donc écrire du roman pour faire du cinéma, et puis après, il va travailler pour le cinéma pour avoir, en fait, pour dégager du temps et de l'argent pour pouvoir écrire ses romans noirs.
Nous, on va s'intéresser peut-être principalement, notamment à travers le corpus de lecture qu'on a choisi, très bref et très resserré, à son écriture romanesque. Mais vous le citez, il y a une pluralité avant même qu'il devienne cet auteur de romans noirs, Nicolas Le Fleck. Mais il y a aussi une pluralité, une hétérogénéité de ses productions d'écriture après. On peut citer par exemple la tenue de son journal intime pendant de très nombreuses années, l'effort de traduction qu'il produit, c'est Exactement. Quelque chose de très important pour lui, mais aussi ce qu'on appelle les chroniques. Qu'est-ce que c'est que ces chroniques ?
Alors les chroniques, c'est-à-dire que Manchette a une particularité, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a laissé une trace importante, c'est que tout en écrivant des romans noirs, il a écrit des critiques en fait sur l'histoire du roman noir, sur les romans noirs qui étaient publiés. Donc tout ça a été rassemblé après sa mort dans les chroniques chez Rivage. Il y a aussi des chroniques de cinéma publiées dans Charlie Hebdo, rassemblées dans Les yeux de la momie. Donc effectivement, il y a un certain nombre de textes posthumes qui sont importants, et le journal après chez Gallimard aussi.
Oui, il y a quelque chose d'assez saisissant quand on vous lit, c'est qu'on a l'impression qu'en même temps qu'il participe peut-être au renouvellement de ce champ-là, qui serait la littérature noire, le roman noir, la série noire, il conscientise, il théorise son évolution, la place que lui occupe dans ce champ-là, mais aussi les frontières nouvelles et mutantes de ce champ-là d'année en année. Enfin, c'est comme s'il était intéressé par la sphère dans laquelle il s'inscrit, Nicolas Le Fleck.
Oui, c'est ça. Et puis alors, en plus, il a une particularité, c'est qu'il a une grande conscience de ses effets. C'est-à-dire que, par exemple, dans ses romans, on a le sentiment parfois que... il se commente un peu lui-même, donc il y a ça. Et dans le même temps, moi, j'ai été aussi sensible quand même, malgré tout, aux tensions de l'œuvre, au jeu qu'il pourrait y avoir dans cette machine qui n'est pas toujours si bien huilée que ça. Il y a quelque chose qui échappe, où il y a une théorie qui serait appliquée de manière mécanique.
Froide et mécanique,
voilà,
ouais.
C'est ça.
Tous les deux, vous témoignez, chacun à votre manière, Hervé Lecor et Nicolas Le Fleck, d'un éblouissement au moment de la découverte des textes de Jean-Patrick Manchette, dont vous faites chacun une chose différente. Vous diriez que c'est un éblouissement dû à quoi, Hervé Lecor ?
Un éblouissement dû à une sorte de naïveté, parce que Manchette était le premier auteur de roman noir que j'ai lu. Donc ça crée une sorte de traumatisme intellectuel quand même de lire ça. C'est-à-dire, j'avais pas lu les Américains, j'avais rien lu. Je crois même que j'avais même jamais lu le moindre Agatha Christie, c'est vous dire. Moi, j'étais plutôt dans la littérature générale. J'étais dans ma période des grands romanciers latino-américains. Donc c'est vous dire que je suis tombé de haut en lisant ça là, et tombé de haut, mais comme on tombe de sa chaise ou de l'armoire. C'est-à-dire qu'on tombe, je me suis retrouvé face à un texte d'une lisibilité parfaite, qui se lisait tout seul, avec une facilité, une aisance, et très vite,
c'était quel texte, Hervé Lecor?
Je crois bien que c'était le Petit Bleu à la côte ouest.
Ouais.
Et avec une espèce d'aisance de souplesse dans l'écriture que j'ai pas analysé tout de suite, mais qui est une espèce de séduction dont j'avais pas conscience. Et le relisant des années plus tard, je me suis aperçu, et puis ayant lu d'autres romans de Manchette, je me suis aperçu qu'il était quel travail sur la langue que ça représentait, quelle ironie aussi. Il me semble que c'est aussi un écrivain qui était constamment ironique, presque moqueur de son propre travail, et s'efforçant toujours d'être sérieux sans se prendre au sérieux, de faire ça sérieusement, voilà, sans se prendre au sérieux. Et ça, je l'ai compris plus tard. Mais ouais, une espèce de... Et après, comment vous dire, encore aujourd'hui, Manchette, c'est un auteur que je relis. C'est rare de relire un roman noir comme ça. Manchette, j'en lis 10, 20 pages. Et immédiatement, c'est un texte, la matière du texte tient debout toute seule. Il n'y a pas besoin du fil de l'intrigue pour que ça tienne.
Mais tellement la langue a quelque chose en soi qui aurait, par exemple, de la matière, suffisamment de matière, ce serait ça?
Voilà. Il y a une vraie poétique manchétienne qu'on peut retrouver immédiatement en le lisant.
Et justement, ça, c'est intéressant parce que Nicolas Le Fleck, dans votre texte, vous mentionnez le plaisir, l'aisance dont parle Hervé Lecor. Ça tient tout seul, ça file tout seul. Il y a un plaisir non dissimulé de lecture. Et en même temps, vous dites, il y a aussi un inconfort. Il y a aussi une recherche de la part de Manchette de ne pas tout nous donner gratuitement ou facilement. Comment cohabite? Est-ce que c'est l'une des dissonances qu'on pourrait pointer en commençant à tirer les fils de ce fameux titre « Écrire contre » ?
Alors oui, il y aurait une sorte de plaisant inconfort, si vous voulez. Moi, je rejoins d'abord tout à fait l'idée de la joie qu'il y a à lire Manchette. Il écrit lui-même, oui, le style source de joie. Moi, j'ai ressenti effectivement cet éblouissement-là, mais c'est pas une joie béate en fait. C'est une joie qui nourrit la pensée. C'est une joie qui augmente notre puissance d'agir, on pourrait dire. Une œuvre dissonante qui est traversée par des tensions, qui vise aussi à bousculer le lecteur, malgré tout, tout en procurant un plaisir qui est celui de la lecture. Tout ça cohabite ensemble aussi par le roman noir, c'est-à-dire que Manchette, il choisit cette forme-là, il s'y trouve très bien, parce que pour lui, si vous voulez, écrire contre tout le monde, c'est écrire pour tout le monde, en fait. Mmh. Il dit « je distrais le client ». Il veut en donner sincèrement pour son argent au lecteur de la série noire. Ce qui fait aussi qu'on a un plaisir à lire, qui est le plaisir romanesque, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même une intrigue, il y a des personnages, il se passe des choses. Moi, je le mesure ça avec les étudiantes et les étudiants à qui je fais lire Manchette. Je vois qu'ils sont sensibles aussi à cette dimension-là. En fait, ce sont des romans dans lesquels il se passe des choses. Manchette est sensible à ça. Donc, ça participe aussi au plaisir de la lecture.
J'arrête juste sur le fait qu'il choisit le roman noir. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, il choisit le roman noir? C'est-à-dire qu'il élit ce type de littérature?
Oui, d'une certaine manière, il s'y trouve bien. Moi, j'ai le sentiment, c'est ce que j'explique.
Mais parce qu'il en lit?
Ah oui, il en lit, voilà. Ouais, et ça, c'est une autre dimension, en fait. C'est-à-dire qu'il a découvert assez tôt, notamment grâce à sa grand-mère, le roman noir. Après, il y a une période durant laquelle il n'en lit plus. Et c'est en rencontrant sa femme Mélissa qu'il va redécouvrir, par exemple, des romans qui l'ont vraiment marqué dans son enfance, comme Il gèle en enfer, Des Lotchez. Et donc, c'est un lecteur de romans noirs. C'est quelqu'un qui est vraiment sensible à cette forme-là. Après, il y a... alors, lui, il dit que c'est un hasard dans un entretien. Puis après, il dit le hasard à Bondo. Donc, le hasard l'a mené à la série noire. À l'origine, l'affaire Engoustreau, son premier roman, il l'avait envoyé à Albin Michel. Albin Michel a refusé. C'est Dominique Horry, en fait, qui l'a aiguillé vers la série noire. Et c'est Marcel Duhamel à qui il faut rendre hommage, qui a repéré que là, quand même, il y avait quelque chose d'important pour la collection.
C'est lui qui va chercher le manuscrit dans la poubelle?
Non, c'est parce qu'en fait, les lecteurs étaient bien embêtés avec ce drôle de texte qui était vraiment singulier. Et donc, ils lui ont demandé de trancher. Et donc, il a dit, ce jeune homme a du talent et de l'humour, il va falloir faire quelques corrections, mais je serai pour tenter l'aventure.
Alors justement, vous dites jeune homme, on a dit qu'il était né en 1942. Mmh. On situe sa première publication romanesque en 72, si je ne m'abuse.
Un peu avant, en 71.
Donc il a une petite trentaine d'années. Mmh. Certes, on est encore jeune à une trentaine d'années, mais ce n'est pas non plus un jeune premier. C'est-à-dire qu'il a quand même 30 ans, il a quand même une trentaine d'années. Est-ce que ça veut dire que... voilà, c'est comme il y a eu un chemin, c'est ce chemin qu'on a décrit avant, c'est-à-dire je voulais faire du cinéma, j'avais besoin de manger, et c'est ça qui fait qu'il publierait. Je sais pas si c'est, je dirais que c'est un peu tard.
Oui et non. Alors c'est sûr que pour lui, les années avant sont difficiles, donc un peu plus tôt peut-être ça aurait été mieux, parce qu'il a beaucoup écrit, il s'est beaucoup fatigué à mener toutes ses tâches à bien. Oui, d'une certaine manière. Après, ça va aller vite, c'est-à-dire qu'en une dizaine d'années, il va avoir écrit une dizaine de romans à la série noire. Et au début des années 80, il publie le dernier roman publié de son vivant, La Poésie en tireur couché. Donc les choses sont allées assez vite du point de vue de la scénarie.
Dès rapidement, dès tout de suite, d'une certaine manière, sa place aussi dans ce champ-là est une place très singulière. Pensée par lui, pensée par les autres, l'admiration qu'il provoque est d'emblée assez importante. On va écouter un premier extrait dans la voix de Cyrine Marchand, mais juste avant cela, qu'est-ce qu'on peut dire écrire contre? Vous dites écrire contre tout le monde, c'est écrire pour tout le monde. Il veut donner de la distraction au client, pour reprendre vos mots, oui. Nicolas Le Flahec. Qu'est-ce qu'on peut placer encore comme ça dans l'air en disant écrire contre, c'est quoi?
Alors voilà, moi, écrire contre, en fait, je l'entends de deux manières. Manchette écrit contre d'abord parce qu'il a une écriture très référentielle, il le dit lui-même, donc il s'adosse. Il s'adosse à une tradition qui est celle du roman noir. Il s'adosse à un certain nombre de références. Il s'adosse au monde qui l'entoure. Donc, en ce sens, il est contre, il est tout contre. Comme
oui, c'est ça, c'est vraiment le tout contre. Ouais.
Voilà. Et dans le même temps, il s'oppose constamment. Il remet en question, il bouscule la série noire, le roman noir, le lecteur, notre regard sur le monde. Donc, ça s'entend de deux manières, en fait, écrire contre. Et donc, c'est effectivement le fil rouge du livre des quatre parties.
On écoute un premier extrait. On l'a pris dans Le Petit Bleu de la Côte Ouest, 1976.
Le couple montait droit vers le tueur par un sentier. L'homme et la femme, s'ils continuaient de suivre le sentier, obliqueraient sur la gauche dans 2 ou 3 minutes et passeraient un peu plus tard à moins de 300 mètres de Carlo, ce qui était pour lui une bonne distance de tir. Et s'il n'obliquait pas, s'il montait tout droit à travers la pâture, il était même envisageable que Carlo pût se les farcir au pistolet, bien silencieusement. Il était nécessaire de tuer la femme aussi pour qu'elle ne donne pas l'alerte. 3 minutes plus tard, suivant le sentier, Gerfaut et Alphonsine obliquèrent à gauche. Après un moment, ils se trouvèrent à 260 mètres du tueur et à la même altitude que lui. Alphonsine trébucha légèrement devant Gerfaut et fit un écart à gauche. Gerfaut lui posa les mains sur la tête et lui passa les doigts dans les cheveux. En même temps, il riait et frottait son corps contre celui de la jeune femme dont il sentit le derrière contre lui. « Tu sais ?» dit-il gaiement. « Je suis con. Je suis un plouc. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller se traîner dans la montagne? J'en ai soupé de la montagne. On n'est pas en week-end. On n'est pas des... je sais pas, moi. » Et sur le côté droit, le torse d'Alphonsine se fracassa. La jeune femme sauta sur le côté comme si elle recevait un coup de pied de cheval. Et un petit sphéroïde d'os écrasé, de chair en bouillie, de morceaux de bronche, de sang en aérosol et d'air comprimé, ainsi que la balle doum-doum qui poussait le tout devant soi, sortirent brusquement de son dos. Gerfaut avait encore les deux mains en l'air devant lui et il était stupéfait de ne plus avoir les cheveux noirs d'Alphonsine entre ses doigts quand la jeune femme heurta le sol de l'épaule en même temps qu'on entendait le départ du coup là-bas, sur la droite. Gerfaut se laissa tomber droit devant lui sur la figure et il entendit l'air se déchirer et puis le bruit du second coup. Affolé de stupeur et de haine, la joue pleine de terre, Gerfaut simultanément commença à doter la bretelle de sa carabine et se tourna vers Alphonsine, qui ne bougeait pas, la bouche ouverte et le visage dans la boue, morte, car son cœur s'était sous le choc arrêté net.
Là, ça tourne pas très très bien pour les vacances de Georges Gerfaut. Il est témoin d'un meurtre, il est cadre commercial, il est marié, il a 2 enfants. Il devient à son tour la cible, et là on entend la description macabre du corps de sa femme. Qu'est-ce qu'on peut dire, Nicolas Le Flahec, à partir de cet extrait-là, Hervé Lecor, du style de Jean-Patrick Manchette qui a été beaucoup commenté?
Du style en général, vous voulez dire, ou dans cet extrait-là?
Peut-être dans cet extrait, ou peut-être dans ce texte-là, puisque on est en 1976.
Je suis très content de l'entendre, parce que je l'ai souvent travaillé avec des lycéens et des étudiants, spécifiquement ce texte-là, donc c'est quelque chose de l'entendre. Je crois, par exemple, qu'ici, on peut mesurer la dimension visuelle de son écriture. Et je crois que si on est sensible au rythme du récit, on voit aussi à quel point ce serait extrêmement difficile d'adapter ça en réalité au cinéma, parce qu'il y a quelque chose de très particulier, notamment dans le trajet de la balle. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant, je trouve.
Il y a presque une décomposition aussi de la blessure.
Ouais. C'est ça, oui. Je ne sais pas ce qu'en pense...
Hervé Lecor.
Oui, il y a un effet de ralenti.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il y a un effet de ralenti, je veux pas caricaturer, mais on dirait presque du Sam Peckinpah, quoi, dans certaines scènes d'action. Je sais pas si Manchette aimait bien Peckinpah, mais on a l'impression, en tout cas dans ce passage-là, d'avoir très exactement, il y a le trajet de la balle, mais il y a aussi le temps qu'il prend à installer la position des corps. Mmh. D'abord debout, puis affaissé, une fois qu'Alphonsine est tombée et que Gerfaut est tombé à plat ventre, mais...
Et on a presque un détail aussi, des détails anatomiques, il y a un petit os, non, on est d'accord?
Oui, c'est ça.
Un petit os, c'est toute l'horreur.
On voit les tranches quasiment avec la balle qui ressort en poussant tout. Oui, effectivement, puis là, je pense qu'on mesure aussi le nombre de cordes, en fait, sur lesquelles il est capable de jouer, au niveau du style, de la longueur des phrases.
C'est-à-dire, ça peut être à la fois hyper simple, hyper factuel, presque un sujet, un verbe, un complément, comme...
Et en même temps, voilà, des longues phrases. Il a une écriture qui est capable de se condenser, mais aussi de se déployer. Parfois, on résume son écriture à une écriture un peu froide, clinique, sèche, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. Il y a un certain nombre... Enfin, c'est pas seulement le cas. Ici, par exemple, il y a un certain nombre de... Alors, moi, pour appeler ça de dissonance, en fait, de petites choses qui viennent troubler l'harmonie. Et même dans le dialogue aussi, ceux qui ont travaillé avec lui pour le cinéma disent que c'est un très grand dialoguiste. En fait, c'est quelqu'un qui est capable de, dans les dialogues, de faire dire un certain nombre de choses. Et là, il y a une chose à laquelle je suis sensible aussi, c'est ce que Manchette appelle l'effet de choc. C'est-à-dire qu'il faut arriver quand même dans le roman noir, qui est une forme dans laquelle le lecteur s'attend à tout, et spécialement à des choses violentes, il faut quand même arriver à surprendre le lecteur, à le faire sursauter. Et puis là, il me semble qu'au niveau de la surprise, même si on sait que le tueur est là, on sait qu'il guette, alors c'est pas sa femme en fait, c'est sa maîtresse. Enfin, c'est la femme avec laquelle il a couché dans la montagne. Et donc, on sait qu'il va se passer quelque chose, et pourtant, je crois qu'on est quand même encore surpris, et ça... Cette capacité que Manchette a à nous surprendre,
net, c'est ça, à la toute fin de la phrase, ouais.
Voilà, par ça, par le moment où les choses se déroulent, par la phrase de Gerfaut. Enfin, j'ai pas le texte sous les yeux, mais il me semble que la phrase est coupée nette aussi. Enfin, cette balle vient trancher en réalité complètement le texte. Donc cette capacité que Manchette a à nous surprendre, moi, qui fait que, comme Hervé Lecor, je prends un plaisir immense à le relire toujours.
Et alors, qu'est-ce qu'on entend, puisque vous le commentez, ce terme-là, dans votre livre, Nicolas Le Fleck, qu'est-ce qu'on entend par le behaviorisme de son style? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça, et est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est effectivement très important pour Manchette lui-même. Le behaviorisme en littérature, c'est le fait de se contenter du comportement, donc, pour revenir à la racine du terme.
Les faits,
de
les actes,
voilà, de ce que font les personnages ou de ce qu'ils disent. Et on ne va pas chercher à l'intérieur de ces personnages, on ne va pas essayer de comprendre ce qu'ils ont au niveau des pensées. Manchette dit que le behaviorisme, c'est le style de la défiance et du calme désespoir. Mmh. Donc, en fait, c'est un style qui se méfie beaucoup d'une approche très simple de la psychologie. Donc, c'est vrai, Manchette l'a dit lui-même, effectivement, il écrit de manière behavioriste, c'est inspiré du roman noir américain, d'Achiel Hammett, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a ça chez Manchette. Et en même temps, Manchette ne se contente pas de reprendre une tradition de manière mécanique, il l'adapte. Donc, le behaviorisme, en fait, il travaille contre aussi, contre lui, donc il le déconstruit. Des fois, c'est tellement behavioriste, en fait, c'est hyper behavioriste dans certains romans, comme il le dit, qu'en fait... En réalité, il signale aussi ça au lecteur comme une sorte de tic d'écriture plaisant. Il y a des passages de la position de tireur couché où on a une hyper précision, en fait, des gestes qui fait que ça devient presque un petit peu louche pour le lecteur, si vous voulez. Ça passe pas de manière naturelle. Et dans le même temps, moi, je ne voudrais pas qu'on pense que parce que Manchette écrit de manière behavioriste, qu'il fait le plus souvent, il a une écriture froide, en fait.
Justement, c'est là-dessus que je voulais y venir. Et parce qu'il y a quelque chose dans les dissonances que vous signalez à propos de Manchette, Nicolas Le Fleck, et peut-être Hervé Lecor, ce serait intéressant de vous entendre là-dessus. C'est la place pour l'émotion. Et même, je dirais, la place pour le sentiment. L'un et l'autre, je crois, lorsque vous parlez de la découverte des textes de Manchette, vous parlez d'un frisson. Je sais plus ouais, si c'est, je crois que c'est vous, ça. Et je crois ça. Que vous le dites aussi, Hervé Lecor. Donc, c'est bien qu'il y ait quelque chose de quasiment charnel, c'est bien qu'il se passe des choses. Alors, bien sûr qu'on peut obtenir du frisson avec de la pure pensée et quelque chose de froid et de clinique. Néanmoins, vous discutez l'un et l'autre que ce serait une littérature sans émotion, sans sentiment. Voilà. C'est pas vrai.
Non, non. Alors, moi, en fait, quand j'ai commencé, donc d'abord, j'ai effectivement découvert Manchette avec La position tireur couché. Complètement par hasard, je rejoins tout à fait Hervé Lecor avec cette lecture très naïve qui pour moi était la bonne, c'est-à-dire que je ne savais vraiment rien des histoires de néo-polar et tout, rien de Manchette. J'ai découvert ce roman par hasard et j'ai été complètement saisi par la fin du texte, mais vraiment comme un vertige en fait, c'est-à-dire que il y a une boucle qui se referme sur le texte, il y a un vent qui se lève au début du roman qui revient à la fin, donc j'ai été vraiment ébranlé en fait par ce texte-là. Et des années après, quand j'ai eu l'envie de faire de la recherche, chercher un sujet de recherche, en fait, et ma femme m'a donné cette très bonne idée, pourquoi pas Manchette ? Je me suis dit, mais oui, Manchette.
Décidément, et donc, heureusement que les épouses sont dans la place.
Exactement. Et je me suis dit, mais Manchette, mais pour dire quoi ? Parce qu'il a quand même été commenté, je ne suis pas du tout le premier à l'avoir travaillé. Et je me suis dit, je vais revenir à la source, en fait, de ma lecture, qui est cette émotion-là. Comment ça se fait que ce texte, qui est censé être l'un des plus behavioristes de Manchette, m'a touché à ce point, en fait? Et en lisant, j'ai vu par exemple que Manchette a écrit une lettre à Pierre Signac dans laquelle il écrit « J'écris avec émotion, je la planque, etc. Mais elle est mon carburant quand j'écris. »
Ce qui vous fait dire à vous « contre l'émotion, avec
voilà,
l'émotion ».
C'est ça, exactement. Et donc je me suis dit « bon, alors que... » Par où elle passe l'émotion en fait ? Qu'est-ce qui fait ? Et quel type d'émotion c'est ? C'est évidemment pas une émotion au sens traditionnel, c'est pas un lyrisme traditionnel, mais c'est une émotion au sens quasi étymologique de mettre en mouvement en fait. C'est-à-dire que le texte parvient à nous ébranler durablement. Donc elle est là pour moi l'émotion.
Vous diriez ça vous aussi Hervé Lecor ? L'émotion c'est la motion, c'est aussi la manière dont ça nous tremble ?
Oui, c'est une émotion qui n'est pas dite. Qui n'est pas le fruit d'effets littéraires, d'effets de lyrisme dans le texte. C'est une émotion qui est ressentie essentiellement par le lecteur. Et toute la magie de Manchette, c'est de faire vibrer son texte et faire en sorte que ces vibrations-là soient transmises au lecteur.
Et vous diriez et plus ressenties par le lecteur ou l'électrice que par les personnages.
Mais parce que c'est là son art. C'est là tout le travail qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire de retenir l'émotion qu'il ressent en écrivant. Ça, j'ai découvert ça bien sûr dans sa correspondance et puis dans le livre de Nicolas. Il y a cette émotion qu'il cache constamment, qu'il maîtrise, et c'est bien la littérature, le travail littéraire, la poétique de Manchette dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'elle est dans cette maîtrise là et de cette maîtrise-là naît ensuite un effet sur le lecteur, qui est cette émotion qui se transmet de façon très souterraine, très subliminale finalement.
Oui. Et est-ce que c'est grossier de dire émotion planquée, émotion cachée du coup ?
Oui. Enfin, lui il dit ça. En tout cas, je la planque dans l'écriture. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, par exemple, dans quoi elle trouve refuge dans le texte. Alors moi, je fais, par exemple, dans les corps des personnages, puisque le behaviorisme, après tout, on se contente des corps. Donc là-dessus, le lecteur en aura pour son argent sur l'émotion dans les corps, avec les visages, par exemple, les lèvres, les visages qui vont pâlir ou rougir brutalement. Dans les paysages aussi, c'est-à-dire que il y a des paysages somptueux dans l'œuvre de Manchette que j'essaye aussi d'analyser. Par exemple, là, pour ce qui est de la montagne, alors il y a des choses très drôles aussi dans Le Petit Bleu de la Côte Est. Et en même temps, il y a des choses qui sont assez saisissantes. Ou dans un autre roman, auquel je pense, au Dingo, au Château, il y a aussi des descriptions de ciel qui font que on a l'impression d'être face à quelque chose de convulsif, en fait.
On va y revenir justement sur cette question des décors et des paysages. Et on va continuer à parler avec vous deux de l'œuvre de Jean-Patrick Manchette à l'occasion de l'apparition de votre livre « Écrire contre » aux éditions Gallimard. Tout ça juste après cette chanson du duo Terre Noire, composée des deux frères Herreras. La chanson s'appelle « Il y a un fou dans la voiture ». Et il y a pas mal de voitures dans l'œuvre de Jean-Patrick Manchette. Elle est extraite de leur tout nouvel album et ils s'y demandent si le fou qui tourne très à droite, c'est mal ?
Thank you. et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, et il tient le volant. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman et un fou dans la voiture, et il tient le volant. Il tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à droite dur. C'est pas de la maladresse. Ça se voit que c'est pas de la maladresse. C'est le mal, est-ce que c'est le mal? Mais c'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est le mal, mais c'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est pas de la maladresse. Est-ce que c'est le mal? Mais c'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? Mais c'est le mal ça, est-ce que c'est le mal? Oui, c'est le mal. Est-ce que c'est le mal, ça? Oui, c'est le mal, ça. Est-ce que c'est le mal? Le mal, le mal, le mal, le mal, hein? Le mal, hein? Est-ce que c'est le mal? Le mal, le mal, le mal, le mal, hein? Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, il tient le volant. Il tourne à droite dur. Maman et un fou dans la voiture, il tient le volant. Il tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à droite dur.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Donc on va commencer, comme convenu, par Jean-Patrick Manchette. Je tire un papier au hasard. Et je tombe sur le mot « roulette ». Est-ce que c'est un mot qui vous inspire pour décrire un décor? Ou bien, non, c'est comme vous voulez.
On va partir d'une roulette de dentiste.
Roulette?
Oui.
On est parti de la roulette.
Alors, parce que c'est plus médiocre.
Jean-Patrick Manchette, le décor, le mot c'est « roulette ».
Oui, c'est donc un cabinet de dentiste, d'un blanc assez douteux. C'est un cabinet de dentiste en mauvais état, il y a des lézardes au mur. Il y a des dentiers qui traînent dans des vitrines fêlées. La fenêtre est légèrement brisée. Il y a d'ailleurs des casseroles à plusieurs endroits pour recueillir la flotte qui tombe par les fentes du plafond. Il y a des chiffons qui traînent, une serpillière qui traîne et un plat de ravioli sur la...
Un plat de ravioli.
Un plat de ravioli sur la petite tablette qui se trouve attenante au fauteuil de dentiste au-dessus de la roulette, et un cigare italien à moitié fumé écrasé au milieu du plat de ravioli.
Il y a quoi?
Un cigare italien à moitié fumé, un cigare toscan extrêmement dur et désagréable, à moitié fumé, extrêmement mâchouillé, qui est écrasé au milieu du plat de ravioli. Mmh. C'est à peu près tout ce que je vois.
Bien. Voilà le décor.
Génial, cette archive 1979, Jean-Patrick Manchette joue avec d'autres sur l'antenne de France Culture à tirer des petits bouts de papier thématiques. Pour lui, c'était planter le décor, d'autres c'était inventer des personnages, j'imagine d'autres l'intrigue. Bref, tout ça pour continuer à parler avec vous, Nicolas Lefleck, Hervé Lecor, de l'œuvre de Jean-Patrick Manchette. C'est tout ce que je vois, dit-il dans cette archive de 1979, et c'est assez intéressant parce que c'est super précis, et ce qu'il réussit à faire en improvisant, en jouant là à l'antenne, c'est quand même super fortiche parce que il y a plein de choses. Enfin, je veux dire, on y est, comme on dit. On y est au cinéma, à la radio, en littérature, mais finalement, c'est toujours la même magie. C'est comment on réussit avec des mots à faire apparaître des choses. Alors, si on poursuit un petit peu dans ce serait quoi les décors, ce serait quoi les humeurs, ce serait quoi l'art de Jean-Patrick Manchette à fabriquer tout ça, Nicolas Lefleck. Et en quoi il le fait, en continuant à se demander en quoi il le fait contre.
Oui, alors bon, d'abord, je vais répondre à votre question, mais l'archive est formidable.
C'est savoureux.
On voit effectivement quand même, c'est drôle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien dire quelque chose, peut-être celles et ceux qui ne connaissent pas encore Manchette, c'est qu'on rit beaucoup.
Et pourquoi on rit?
On rit parce que l'écriture... Alors, on rit parce qu'il y a des personnages grotesques, d'abord. Et que par exemple, on a des tueurs en slip, enfin, vous voyez, des choses qui sont assez savoureuses. On rit aussi parce que l'écriture a conscience d'elle-même et de ses effets, qu'il y a beaucoup d'autodérision chez Manchette.
C'est malin.
Oui, c'est effectivement très malin. Donc l'archive de ce point de vue-là est intéressante. Et puis après, bon, pour ce qui est des espaces, C'était ça.
Oui, sur les parce espaces. Que tout à l'heure, vous parliez aussi de la manière dont il s'adosse aussi à la description de paysages, de ciel, de montagne. Bon, c'était pour évoquer peut-être le lyrisme et la place de l'émotion et du sentiment. Mais finalement, on peut aussi voir l'utilisation des décors autrement, presque d'un point de vue technique, d'un point de vue romanesque, quoi. Comment il le fait, à quoi ça lui sert.
Oui, alors bon, en bon auteur de roman noir, il y a par exemple des décors, des espaces urbains dans son œuvre, évidemment. On le voit bien ici, une très grande attention aux détails, aux choses. Dans mon livre, j'essaye de faire un parallèle avec le Pérec des choses pour montrer que cette attention aux détails, en fait, aux marques, à un certain nombre d'éléments du quotidien, elle dit aussi quelque chose de la société.
Oui, c'est pas qu'un cigare là dans ce qu'il dit, c'est un cigare mâchonné déjà.
Ouais. Donc il y a une attention à cette capacité qu'a aussi la société de consommation d'envahir notre quotidien. Dans le petit bleu de la côte ouest, en fait, donc Georges Herfaux fuit, en apparence, il fuit des tueurs qu'il poursuivent. En réalité, Manchette le dit, il fuit sa vie de cadre, en fait, qui devient pour lui insupportable. Donc cette attention aux détails, au-delà ici de la plaisanterie qu'on voit bien dans ce décor qu'il esquisse, mais quand même avec brio, en quelques mots, on y est dans le... Moi, j'ai noté, il y a des lézards au mur aussi.
Ouais, ce qui et des casseroles pour choper l'eau.
Ce qui m'intéresse beaucoup dans mon travail sur la dissonance. Bon, donc, il y a tout ça. Après, moi, je suis sensible aussi chez Manchette aux échappées belles. C'est-à-dire que ça dure pas longtemps souvent, mais c'est là quand même... Je crois qu'il nous dit qu'on mérite mieux que le monde qu'on essaye de nous vendre. Alors, c'est vraiment rapide. Hein. Il faut saisir ces moments dans les romans quand on les voit. C'est comme un éclair dans la nuit. Mais il y a ça dans les romans aussi. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose de possible. Souvent, c'est une parenthèse, un éclair, une illumination. Ça peut être à la fin d'un roman. Par exemple, à la fin de Odingo au château, il y a quelque chose de très beau. Donc, c'est un enfant, Peter, qui vient de vivre une scène extrêmement violente, le lecteur aussi. Mais il tient debout. Et Manchette nous dit, l'air était pur, enfin le narrateur, l'air était pur, il faisait vachement beau, parti jouer aux Indiens. Mmh. Voilà, et le roman se termine là-dessus. Donc, et on l'a pas dit, mais il a, à la fin de sa vie, travaillé sur un très grand et très beau projet de cycle de romans, Les gens du mauvais temps. Nous n'en avons qu'un morceau du premier tome, La princesse du sang, qui
Quel
se déroule
titre à... Les gens du mauvais temps, c'est magnifique.
Les gens du mauvais temps, c'est effectivement très beau, La princesse du sang aussi. Et ça se déroule en partie à Cuba, dans la Sierra Maestra. Et La princesse du sang, c'est aussi un sacré roman. Alors, Manchette avait une difficulté, qu'il souligne lui-même, c'est que il est obligé de constater qu'il n'a pas une imagination débordante. Il a besoin d'écrire ce qu'il connaît, en fait. Donc, par exemple, Saint-Georges de Didonne, dans le petit bleu de la côte ouest, parce qu'il est parti en vacances à Saint-Georges de Didonne. Et pour Cuba, donc, il a dû aller à Cuba pour voir à quoi ça ressemble.
Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas Le Flaec, de écrire contre. C'est aussi s'adosser au réel, s'adosser à son observation du réel, au regard qu'il porte sur le monde. Hervé Lecor, est-ce que vous riez, vous aussi, à lire Jean-Patrick Manchette?
Oui, assez souvent. Oui, mais Nicolas a un peu tout dit. Il a parlé des personnages grotesques. Il y a aussi la permanence, je crois, d'un humour noir qui sous-tend la plupart du temps le texte. Je parlais tout à l'heure de l'ironie de Manchette à l'égard de sa propre écriture, cette mise à distance de lui-même et de son travail. Et c'est vrai qu'on rit beaucoup. C'est aussi dans ce que Nicolas dit de la dissonance, il y a aussi par moments des chutes de phrases qui peuvent être qui après un passage éventuellement d'une certaine amplitude rythmique des chutes de phrases qui par un mot vulgaire ou une grossièreté ou un quelque chose d'incongru vont déballonner complètement l'espèce d'émotion artificielle qu'on avait pu ou qu'on avait cru lire et qui vont nous arracher un sourire plutôt que l'empathie qu'on pourrait ressentir à l'égard de ce qui est en train de se passer. Il y a ça aussi. Alors rire ou sourire, mais on lit Manchette avec constamment un demi-sourire admiratif.
Voilà, oui, et j'ai l'impression que ce demi-sourire admiratif, il vient aussi de la place accordé à la pensée, non de manière didactique dans le texte, mais Nicolas Le Flaec, vous dites que écrire contre, c'est aussi s'appuyer à tout un corpus de pensées critiques dont il est lecteur et dont la prose romanesque se ferait non pas l'illustration, mais quoi alors ? Une sorte d'espace dans lequel il est possible de penser et ça pourrait être un espace dans lequel il est possible de sourire parce qu'on pense, pour reprendre le petit sourire de Hervé Lecor ?
Oui, et même l'humour peut nourrir le travail de la pensée. À la fin de Griffu, la BD qu'il a écrite avec Tardy, je crois que les derniers mots sont « là où je suis, je ris ». Donc ce rire-là, il nous porte, et il porte aussi le travail de la pensée.
Vous dites il lit Debord, il est sensible à
évidemment.
La pensée de la société du spectacle, du mensonge totalitaire. Comment ça s'exprime dans les romans ?
Alors, ça s'exprime, si vous voulez, parce que il parie d'abord, il faut dire ça, il parie sur l'intelligence du lecteur. C'est-à-dire que il n'y a pas chez lui de volonté didactique. On se tromperait complètement en pensant que
il
écrit de manière
messages,
idéologique, il écrit sur l'idéologie, ce qui est complètement différent. Dans un entretien, il dit qu'il veut, je cite, faire voir si le lecteur veut bien prendre le temps de regarder. S'il ne veut pas, c'est son problème, je ne suis pas chargé de l'évangéliser. Donc ça, c'est très important, et je crois que c'est comme ça, en fait, qu'il arrive à nous faire réfléchir.
On est responsable.
Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé sur le dictionnaire philosophique de Voltaire et au début, dans sa préface, Voltaire dit « Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié ». Bon, je crois qu'on y est là.
En 1972, il fait paraître Nada. On écoute un nouvel extrait dans La Voix de Cyril Marchand.
Buenaventura engagea la cassette dans l'appareil, vérifia que les piles fournissaient une énergie convenable, puis déploya le micro, passa sur enregistrement et dicta une relation complète de l'enlèvement de l'ambassadeur et du siège de la fermette. Pour authentifier sa déclaration, il donna le numéro de l'automatique qui avait servi à tuer l'ambassadeur et en indiqua la provenance. Il revint s'asseoir, reprit le magnétophone et y fourra une nouvelle cassette intitulée sur l'étiquette « Le mariage de Maryse ». Il empoigna le micro, pressa la touche d'enregistrement, et tandis que la bande commençait de s'enrouler, il demeura un instant immobile, la bouche ouverte. Son visage était contracté comme au début de l'après-midi dans la baignoire. « J'ai fait une erreur », dit-il soudain. « Le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique leurs mobiles soient incomparables, sont les deux mâchoires du... » Il hésita. Du même piège à con, acheva-t-il, et il continua aussitôt. Le régime se défend évidemment contre le terrorisme. Mais le système ne s'en défend pas, il l'encourage, il en fait la publicité. Le desperado est une marchandise, une valeur d'échange, un modèle de comportement comme le flic ou la sainte. L'État rêve d'une fin horrible et triomphale dans la mort, dans la guerre civile absolument généralisée entre les cohortes de flics et de mercenaires et les commandos du nihilisme. C'est le piège qui est tendu aux révoltés, et je suis tombé dedans. Et je ne serai pas le seul. Et ça m'emmerde bien. Le catalan fixa l'ombre et se frotta machinalement la bouche avec la main. Il eut la vision de son père qu'il n'avait jamais vue. L'homme est debout sur une barricade. Plus exactement, il est en train de faire une enjambée, un de ses pieds en l'air. C'est le soir du 4 mai 1937 à Barcelone. Le prolétariat révolutionnaire s'est insurgé contre la bourgeoisie et les staliniens. Une balle va frapper dans une fraction de seconde le père de Buenaventura Diaz. Dans une fraction de seconde, l'homme sera mort. Dans quelques jours, la commune de Barcelone sera écrasée. Dans peu de temps, elle sera enterrée sous la calomnie.
Extrait du roman Nada. Là aussi, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire le constat de se planter politiquement, notamment une critique faite sur le terrorisme de gauche, mais aussi l'appel à la connaissance historique d'autres cas, là en l'occurrence la commune de Barcelone. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet extrait, et peut-être pour continuer de parler de la place de la politique et de la pensée politique dans l'œuvre de Jean-Patrick Manchette?
Bon, d'abord, quel écrivain, enfin, c'est-à-dire que moi je le connais bien, ce texte, et à chaque fois, c'est magnifique. Là, tout ce qu'il arrive à condenser dans ce texte-là, c'est quand même très impressionnant. Ce qu'on voit ici aussi, et ça, moi, c'est une des leçons que j'ai pu tirer de ma lecture de Manchette, c'est que Ce qui compte pour lui, c'est la capacité à faire résonner les événements les uns avec les autres, à prendre de la hauteur, à avoir un peu de profondeur de champ. D'un coup apparaître la commune de Barcelone, c'est pas du tout anodin. Manchette, il l'écrit dans sa correspondance, l'un des textes qu'il connaît quasiment par cœur, c'est l'hommage à la Catalogne d'Orwell. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour Manchette, ce passage-là, en fait, la commune de Barcelone. Donc, il y a une capacité chez lui à lier des événements qui est assez impressionnante. Ici, on le voit bien à travers ce texte.
Oui, parce qu'il les digère en même temps. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est des textes qui pensent, c'est-à-dire à la fois qui nous font penser, mais on sent bien que pour produire ça, cette condensation-là, il faut bien avoir pensé. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir digéré pour être capable de le faire dans ce que vient dire Cyril, c'est-à-dire une page et demie. Quoi. C'est
et ça,
vraiment
et ça
très,
va très vite.
C'est vraiment très,
très
serré.
Il y a un questionnaire de Proust où on lui demande quelle est sa vertu préférée, il dit la vélocité. Voilà.
Franchement, je comprends. Ben, ça tombe bien, il va falloir faire preuve tous les deux de vélocité pour répondre à Romain, auditeur du Book Club. C'est un lecteur de Jean-Patrick Manchette. Il a aussi lu le livre que vous lui consacrez. Il vous interroge tous les deux, Hervé Lecor, Nicolas Hulfleck, sur les clichés.
Bonjour le Book Club. Bonjour Nicolas Hulfleck. C'est Romain qui vous parle depuis la bibliothèque de Pujol dans le Lot-et-Garonne. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans votre livre, c'est la façon dont il offre une nouvelle grille de lecture des romans de Manchette. Donc, est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur les clichés qui, à votre sens, perdurent encore aujourd'hui autour de Manchette ? Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup Romain et salutations à la bibliothèque de Pujol. Nicolas Hulfleck, Hervé Lecor, quel cliché colle encore à l'œuvre de Jean-Patrick Manchette qu'il faudrait défaire ?
Je ne sais pas si Hervé veut commencer.
Hervé Lecor ?
Je peux commencer. On vient un peu d'en parler. Le cliché... L'un des clichés, le principal, en tout cas, je le vois auprès des camarades auteurs contemporains, c'est la politique. C'est faire de Manchette un auteur qui serait explicitement politique, qui ferait des romans politiques. De façon presque, avec une espèce de didactisme, ce qui est évidemment, Nicolas vient de le dire, totalement faux. C'est-à-dire s'il fait de la politique, c'est vraiment du billard à 10 bandes. Et en plus, on vient de lire un extrait de Nada, qui est probablement son roman le plus directement politique, puisqu'il interroge la question du terrorisme d'extrême gauche. Non, Manchette se sert de situations qui sont elles-mêmes, d'ailleurs, il le dit lui-même d'ailleurs, des clichés. Hein, le tueur qui veut décrocher, le type ordinaire qui est pris dans un engrenage, comme dans Le Petit Bleu, qui est pris dans un engrenage fatal, la nana un peu folle qui est poursuivie par des tueurs parce qu'elle a un gamin avec elle. Bon, finalement, on retrouve un petit peu toujours des constantes du roman noir, et si ce sont des romans politiques, c'est parce que simplement ils évoquent le monde tel qu'il était, la société telle qu'elle était dans les années 70-80, quand il a 70 surtout quand il a écrit. Mais il faut débarrasser Manchette de ce fardeau, pour redonner de la légèreté à ces textes, cette légèreté qui fait leur charme, vraiment au sens presque étymologique du terme, presque magique du terme, et puis qui leur donne leur véritable sens politique, à savoir qu'on a là effectivement le portrait déformant de la société contemporaine qu'a connu Manchette, voilà. Et puis je voulais juste rajouter un truc par rapport à, mais ça c'est simplement un hommage au livre de Nicolas, parce qu'il en parle aussi dans l'extrait qu'on vient de lire de Nada. Il y a aussi la question de la paternité et de l'héritage intergénérationnel entre Buenaventura et son père. En plus, on parlait d'émotion tout à l'heure, là on y retombe décidément. Il y a tout ça. Dans un passage aussi court que ça, on a une véritable déclaration politique, une véritable déclaration d'amour entre un fils et son père. Et ça, évidemment, c'est tout Manchette, quoi. Cette espèce d'art littéraire condensé, quoi, chez lui.
Un dernier cliché à faire tomber, Nicolas Hulfleck.
Non, alors d'abord, je suis sensible au fait, moi, de ne pas figer l'œuvre et d'écouter aussi ce qu'elle a à nous dire du monde qui nous entoure. Par exemple, il y a la question de l'écologie qui est assez importante à la fin de l'œuvre de Manchette. Et après, peut-être un dernier cliché sur la figure hautaine. Alors oui, Manchette est un critique qui peut se montrer redoutable par amour de la langue, mais c'est aussi un passeur formidable.
Des autres textes, vous voulez dire?
Oui, des autres auteurs, mais aussi il a soutenu des écrivains comme Richard Morgiev, par exemple, Jean Echenoz d'une certaine manière. Et juste à la fin de sa correspondance, il y a une lettre assez bouleversante qu'il a écrite à des lycéens. Et là, on mesure à quel point Manchette aussi savait faire preuve de générosité dans l'échange.
Et dans peut-être la transmission et le fameux héritage dont
exactement
parlait Hervé Lecor à l'instant. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Trop fort, on a aussi des invités qui réussissent à faire comme ça, tour de passe-passe, densité dans le propos. Bonjour Nicole Vulser.
Bonjour Marie.
On est mardi, il est 15h50, vous êtes donc pile à l'heure pour cette chronique qui décrypte les aspects économiques du monde du livre aujourd'hui. Ah, c'est pas la fête, on envoie les livres invendus au pilon.
Absolument. Question légitime qui taraude et hante tous les auteurs. Le livre qu'ils ont mis souvent 2 ans à écrire, ligoté à leur ordinateur en peinant sur les bien nommées épreuves de relecture, va-t-il tristement finir au pilon? Que deviennent en effet les livres invendus parmi les 260 millions d'exemplaires tirés pour mettre sur le marché près de 37 000 nouveautés en 2023? Alors je suis navrée, les chiffres 2024 ne sont pas publiés avant la fin juin, mais continuons la démonstration. Le marché du livre a ceci de tout à fait spécifique. Les libraires, les grandes surfaces culturelles, les hypermarchés, les acteurs de la vente en ligne ont la possibilité de retourner après un certain délai tous les ouvrages qui n'ont pas trouvé preneur et ils peuvent se faire rembourser. 3 options s'offrent alors aux distributeurs, pilonner les invendus, les réintégrer dans leur stock ou les rendre à l'éditeur. C'est dans le jargon ce qui s'appelle le flux retour, ce fameux tonnage de livres renvoyé à l'expéditeur. Ce flux retour représente près de 37 000 tonnes de livres, près d'un cinquième du flux aller.
Ça fait beaucoup et dans ce total des retours, quelle est la part des livres qu'on envoie au pilon ?
Le pilon représente 25 000 tonnes de livres, soit 13% du flux aller. Les éditeurs jugent les ventes insuffisantes ou le tirage s'est avéré bien trop élevé par rapport à leurs prévisions. Certains ouvrages aussi sont abîmés, d'autres tout simplement obsolètes, s'il s'agit par exemple d'un guide de voyage ou de manuels scolaires périmés. La gestion des stocks coûte très cher pour un éditeur et souvent la mise au pilon tient à des raisons économiques. Les éditeurs ne proposent que très rarement aux auteurs de racheter leurs ouvrages. L'autre partie des invendus, 8700 tonnes de livres, soit 4,5% du flux aller, est réintégré dans le stock des distributeurs pour être mis en vente ultérieurement. Et seulement 3200 tonnes de livres invendus, soit 1,7% du flux aller, reviennent chez l'éditeur qui peut, par exemple, les revendre à un soldeur ou en faire des dons à des associations.
Et ça n'est pas sans poser des questions de transition écologique.
Effectivement, Marie, ces millions de livres jamais ouverts, jamais lus, génèrent inutilement des émissions de CO2. Les retours, donc le transport et la logistique supplémentaire, ont un impact environnemental et financier non négligeable. Pour Pascal Lenoir, directeur de la production de Gallimard et président de la commission environnement et fabrication du syndicat national de l'édition, la question de la surproduction n'est pas encore résolue. Trop de livres sur un même thème voient le jour, des dizaines de manuels de yoga ou des cahiers de vacances, alors que le marché ne peut pas les absorber. Et la question de l'ajustement des tirages est complexe, puisque les données sur les ventes des livres, qui devraient s'améliorer bientôt, restent trop peu précises et surtout trop lentes. De plus, jusqu'à présent, le recours à l'impression des livres à l'unité reste encore très peu utilisé. Toutefois, Pascal Lenoir assure que sur un plan environnemental, le livre papier est une matière renouvelable et recyclable. 100% des ouvrages mis au pilon sont recyclés. Les livres sont d'abord stockés dans des bennes spécifiques avant d'être récupérés par un recycleur qui va les revendre à des fabricants de pâte à papier qui les métamorphoseront le plus souvent en carton. Les livres seront broyés, puis mélangés à l'eau et au savon, puis traités pour en faire des fibres réutilisables. Cependant, les usines de pâte à papier, bon nombre ont fermé en France, sont très consommatrices d'eau, puisqu'il faut 500 litres d'eau pour réaliser 1 kg de papier. Et cette eau reste polluée longtemps après avoir été utilisée.
Donc c'est pas du tout écolo, mais c'est quand même très très fascinant l'idée qu'on utilise peut-être des cartons recyclés pour déménager des livres, cartons qui eux-mêmes sont nés de centaines et de centaines de livres pilonnés. Qu'est-ce qu'il y a comme action envisagée par les éditeurs pour améliorer justement cette empreinte environnementale, Nicole ?
Alors, le syndicat national de l'édition vient tout juste d'annoncer un nouveau programme baptisé Chapitre Responsable, articulé autour de 3 mesures qui seront mises en œuvre sur 2 ans jusqu'en 2026. Tout d'abord, Un calculateur de l'empreinte carbone sera accessible à tous les éditeurs. C'est une plateforme numérique qui permet de mesurer les émissions de CO2 de chaque ouvrage produit. Ce programme doit aussi permettre d'analyser le cycle de vie d'ouvrages imprimés. Enfin, un outil de formation aux enjeux environnementaux est destiné aux salariés des maisons d'édition. Un petit pas donc. Et dernière question, le livre électronique pourra-t-il nous sauver sur un plan environnemental? Selon l'Agence de la transition écologique, les ouvrages papier restent moins polluants que les liseuses, qui ne deviennent avantageux sur le plan écologique que si l'on dépasse le seuil de 50 livres lus par an et par liseuse. Alors, vive le papier.
Voilà, là, tout ça se réécoute pour être bien sûr d'avoir tout bien compris. Nicole Vulser, économie du livre sur franceculture.fr. Merci. À cette heure-ci dans le Book Club, on cherche de la musique dans les livres et on a compris que Jean-Patrick Manchette choisissait quand même tous les détails plutôt avec précision. Est-ce que c'est aussi le cas pour la présence de la musique dans ses textes, Nicolas Lefebvre ?
Oui, absolument. Il y a même un roman dans lequel il n'y a pas de musique et il y a un personnage qui dit « ça manque de musique
». Il est vraiment drôle. Donc on a été chercher une page musicale dans un roman qui s'appelle « Que d'eau ?» Que d'os ? On dit quoi ?
On peut dire « que d'eau ».
Que d'eau, alors « que d'eau ». Environ une heure plus tard, lorsque, ayant réglé avec Chauffard les dernières dispositions, je suis rentrée chez le copain Jules, j'ai eu envie de m'allonger tout de suite sur la moquette dans l'entrée. Il y avait de la lumière au salon, j'ai franchi la porte de communication. Eman, assis sur le canapé, se versait un verre de cognac espagnol. Charlotte, à quatre pattes devant l'électrophone, mettait un disque. « Vous devriez être au lit, ai-je dit. Nous avons une rude journée devant nous. » C'est ça, approuvait Charlotte en se relevant. On devrait être au lit, à se tourner et se retourner et à se demander ce que vous êtes devenue. Femme amoureuse, a marmonné Eman. Et Charlotte l'a traitée de con. Qu'est-ce que c'est encore que ce tintamarre ? Ai-je demandé. Et Charlotte m'a dit que c'était Cecil Taylor. Nicolas Lefleg, d'avoir été avec nous pour évoquer ce livre « Écrire contre » paru aux éditions Gallimard. Pas tout à fait votre thèse, vous avez voulu reprendre le texte comme ça, voilà. Et en faire un texte vivant et accessible. Et merci beaucoup Hervé Lecor d'avoir été avec nous.
Merci à vous de m'avoir invité.
Grâce à Ici Bordeaux et les équipes techniques, notamment Sandrine Ortuno. Au son, ici, c'était Élise Leu, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et singulièrement aujourd'hui à Cyril Marchand, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Louise Hoth et Alexandra Lajbegovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.